Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de Radio Prague. Nous commençons par les informations. La social-démocratie est prête à continuer de gouverner avec ses partenaires de la coalition actuelle, les chrétiens démocrates et les unionistes. Une déclaration du Premier ministre Stanislav Gross à l'issue des négociations des leaders des partis de la coalition. Stanislav Gross, dans le départ de la tête du cabinet demandé par les chrétiens démocrates à cause d'un financement obscur de son appartement à Admir, que ses propos faits en rapport avec le scandale autour des finances privées de sa famille aient pu offenser quelqu'un et il s'en est excusé. Comme il a annoncé, c'est le comité central de la social-démocratie qui, dans sa session de samedi prochain, décidera s'il doit rester dans ses fonctions ou démissionner. La décision de la rencontre des chrétiens démocrates est la suivante. Ils n'insisteront pas sur la révocation du Premier ministre Stanislav Gross jusqu'au congrès du Parti social-démocrate qui se réunira le 26 mars prochain. Le chef de la diplomatie tchèque, Cyril Svoboda, en visite en Roumanie, a assuré son homologue, Mihai Ungueran, du soutien tchèque à l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. L'intérêt des firmes tchèques de participer à la privatisation roumaine a également été au menu des conversations. Pour le passage à l'économie de marché entre les années 1990-2004, l'État tchèque a payé plus de 600 milliards de couronnes. Ces moyens ont été destinés à la sauvegarde des banques et des entreprises. D'autres milliards ont été versés à l'aide aux villes et aux régions, a indiqué le ministre des Finances, Bohuslav Sobotka. La chambre basse du Parlement autrichien a simplifié les conditions d'emploi des Tchèques dans des régions limitrophes. Les autorisations sont délivrées pour une année. Selon le rapport de la Fédération des employeurs européens comparant les salaires dans les pays de l'Union européenne, les pays candidats et la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein et l'Islande, les revenus sont les plus élevés au Danemark et les plus bas en Bulgarie. La Tchéquie a occupé la 25e place parmi les 33 pays enquêtés. Un alpiniste tchèque porté disparu depuis mercredi matin en Écosse a été retrouvé. Il est en bon état de santé, une information du porte-parole de la police de Londres. Les conditions de neige sont excellentes dans les montagnes tchèques. Le ciel est clair, il fait toujours très froid. La nuit, le mercure descend jusqu'à moins 10 degrés et les températures diurnes varient entre moins 3 et 2 degrés. C'était les informations par Yarkali Sublova.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité qui débutera par des données statistiques sur les étrangers en Tchéquie, présentées par Alexis Rosenzweig. Ensuite, Guillaume Narguet nous donnera les nouvelles les plus fraîches sur la crise gouvernementale. Les propriétaires d'immeubles sont prêts à porter plainte contre l'État tchèque à Strasbourg. Magdalena Segartova s'est intéressée au Festival des films de Karel Zeman à Bruxelles et Anna Kubishta vous présente le train anti-drogue, un moyen controversé de la lutte contre les stupéfiants. Une réalisation technique d'Irena Vianokova. Le nombre d'étrangers en Tchéquie augmente mais reste relativement faible. C'est ce qui ressort des chiffres publiés mercredi par l'Office tchèque des statistiques. Plus de détails avec Alexis Rosenzweig.
Pour la première fois depuis la création de la République tchèque, le nombre d'étrangers sur le territoire a dépassé les 250 000. Même si ce nombre a doublé en 10 ans, la Tchéquie figure toujours en Europe parmi les pays à la plus faible proportion d'étrangers, avec 1,8% de sa population. Seule la Grèce, la Lituanie et la Hongrie affichent des pourcentages plus faibles.
Le nombre d'étrangers en République tchèque a commencé à croître au cours de la deuxième moitié des années 90. Début 2004, ils étaient 77 000 à vivre légalement sur le territoire. En un an, ce chiffre a été multiplié par 2,5.
Bohdana Hola, la responsable des statistiques concernant la population à l'Office national que vous venez d'entendre, a apporté d'autres précisions sur la population étrangère en Tchéquie, sur les communautés les plus importantes notamment. Les Ukrainiens représentent un tiers des ressortissants étrangers, les Slovaques un cinquième. 100 000 étrangers ont par ailleurs un permis de séjour permanent dans le pays. Ce qui les attire ici, en grande majorité, l'opportunité d'augmenter leurs revenus et de faire valoir leurs diplômes. Pour Bohdana Hola, cela explique que ce soit les hommes âgés de 20 à 40 ans qui sont les plus nombreux. La plupart d'entre eux, principalement originaires d'Ukraine, de Slovaquie, de Bulgarie ou encore de Roumanie, sont des ouvriers. En revanche, beaucoup de Vietnamiens installés ici travaillent dans le commerce. 108 000 étrangers, en grande majorité des ressortissants de l'Union européenne, ont le statut d'employé. Et c'est à Prague et en Bohême centrale que vivent le plus d'étrangers, même si on trouve par exemple davantage de Vietnamiens dans les régions de Karlovy Vary et d'Oustina de la même, et davantage d'Ukrainiens dans le centre du pays. Après la publication de ces chiffres, les commentaires dans la presse de ce jeudi sont unanimes. Le nombre d'étrangers doit continuer d'augmenter pour pallier le vieillissement de la population. Le vice-président de l'Office des statistiques, Stanislav Drapal, a été clair. D'ici 2050, un quart de la population pourrait être constituée d'immigrants.
Le gouvernement continue de se débattre pour sortir de la crise dans laquelle il est empêtré depuis les révélations sur le financement obscur de l'appartement du Premier ministre Stanislav Gross. Mercredi, les chefs des trois partis qui forment la coalition se sont réunis sans qu'aucune décision essentielle n'en soit ressortie. À l'approche de la session du comité central de la social-démocratie samedi, Stanislav Gross a cependant fait savoir qu'il démissionnerait de son poste si la direction du parti ne lui manifestait pas un soutien total. Guillaume Narguet vous relate les derniers rebondissements de ce feuilleton rocambolesque.
Le scénario et le décor sont identiques. Seul change le héros principal de ce qu'il est désormais convenu d'appeler une mauvaise farce. Voilà à peine 8 mois au lendemain d'élections européennes désastreuses pour la social-démocratie. Le dadon en avait été Vladimir Spidla. Déçu par la faible confiance manifestée par les siens, il avait préféré démissionner de ses postes de président du parti et de premier ministre, laissant la voie libre à un successeur haut dans l'ongle, Stanislav Gross. Aujourd'hui, c'est au tour de ce dernier de remettre son sort et une bonne partie de son avenir politique entre les mains du comité central d'une formation bien mal en point et au plus bas dans les sondages. Acculé dans les cordes par les chrétiens démocrates et leur leader Miroslav Kalousek, qui considère son départ comme une condition sine qua non à la poursuite de la coalition, mais aussi par une opinion publique frustrée et lassée de ses incessants pirouettes et volte-face, Stanislav Gross, personnage politique le plus populaire du pays voilà en quelque temps encore, ne disposait plus guère d'autre ici de secours dans un avenir proche. Mais de répit, le chef du cabinet n'en bénéficiera que jusqu'à samedi. Ensuite, il lui faudra trancher dans le vif, ce dont il a été incapable jusqu'à présent. Et s'il était maintenu en place par les sociaux-démocrates, un nouveau gouvernement serait à recomposer, les chrétiens-démocrates quittant le bateau. Stanislav Gross, plus jeune Premier ministre de l'Union européenne, pourrait alors s'inscrire dans l'histoire comme le premier homme politique tchèque depuis la Révolution en 1989, à tendre la main aux communistes et leur demander de soutenir une nouvelle coalition minoritaire. Un épilogue certes extrême, mais qui serait digne du niveau du débat mené jusqu'à présent.
Les retombées du succès de la plainte déposée à la Cour de justice des communautés européennes à Strasbourg par une propriétaire d'immeubles polonaise ne se sont pas fait attendre longtemps en Tchéquie. Les propriétaires d'immeubles tchèques comptent porter plainte à la Cour de Strasbourg non seulement en ce qui concerne la régulation des loyers, mais aussi pour demander des dommages et intérêts à l'État tchèque. Ces derniers pourraient s'élever jusqu'à plus d'1,5 million d'euros. Selon l'association des propriétaires tchèques, ce chiffre représenterait le manque à gagner qu'ils ont subi depuis 2002, date à laquelle la Cour constitutionnelle tchèque avait rendu son verdict disant que la régulation des loyers ne doit pas occasionner des pertes aux propriétaires d'immeubles. D'autres associations de propriétaires, certaines agences immobilières et même les communes qui possèdent elles aussi des immeubles d'habitation pourraient se joindre à ce mouvement. Le ministre de l'Aménagement du Territoire est conscient du problème et demande encore 15 jours pour terminer le projet de loi sur les loyers. Il est fin prêt, certes, mais il lui manque encore une chose capitale. Il faut répondre à la question : quelle sera la dynamique de la hausse des loyers après l'abolition de la régulation ? Les propriétaires d'immeubles demandent que les loyers leur permettent de couvrir les dépenses engagées dans l'entretien de leurs biens. Les experts en droit pensent que les plaintes des propriétaires d'immeubles tchèques pourraient être reçues par la Cour de Strasbourg. Du côté de l'administration, on reste optimiste, comme le confirme d'ailleurs le vice-ministre de l'Aménagement du Territoire, Ivan Tchikril. Le montant des loyers devrait répondre pendant un certain temps au niveau des prix sur le marché de l'immobilier. Ensuite, nous devrions copier le modèle qui est en vigueur dans les pays voisins et dans l'Union européenne. Ivan Tchikril ajoute encore que le ministère ne craint pas une vague de plaintes, car avant que la Cour de Strasbourg ne décide, il présentera un projet de loi sur la dérégulation des loyers. En ce mois de mars, le cinéma tchèque est à l'honneur à Bruxelles. Le 23e Festival international du film fantastique proposera dès la semaine prochaine quelques-uns des chefs-d'œuvre tchèques du genre et, parallèlement, la Cinémathèque royale de Belgique présentera le Méliès tchèque, Karel Zeman. Magdalena Segertová vous en dit plus.
Sám říkám, že mám, a to neříkám já, i tými spolupracovníci,
je dis toujours, et je ne suis pas le seul, que mon métier est le plus beau du monde. À travers une image, je raconte des aventures. J'imagine un bonhomme et son histoire, et pendant plusieurs semaines, j'essaie avec mes collègues de l'animer, de le faire bouger. Un jour, on se met devant l'écran et on voit que ce qu'on avait imaginé vit réellement. C'est tout simplement un plaisir. Une confession du scénariste, réalisateur et animateur Karel Zeman, dont les films de science-fiction, vieux de 30, 40, 50 ans, ne cessent de subjuguer le public enfantin et adulte, tchèque et étranger. Récompensé à plusieurs reprises en France, mis à l'honneur par le passé au festival d'Annecy, l'œuvre de Karel Zeman, disparue peu avant la révolution de velours, sera à l'affiche du 11 au 26 mars au musée de cinéma de Bruxelles, rue Baron Horta. Et cela pour une raison bien précise. Emballé par l'univers de Jules Verne, Karel Zeman a adapté au cinéma trois de ses romans d'une façon inédite en animant leurs illustrations, en faisant intervenir des techniques du collage, des effets spéciaux, à l'époque sans ordinateur, et des acteurs vivants. Olivier De Kegel du musée du cinéma de Bruxelles.
Effectivement, c'est le centenaire de la mort de Jules Verne. Donc nous avons organisé cette petite rétrospective Zeman en collaboration avec le Festival du film fantastique, mais également avec l'ambassade française par rapport à Jules Verne notamment. Et donc les trois films dont Zeman s'est inspiré, a trouvé son inspiration dans Jules Verne, l'invention diabolique, sur les gravures de Benet, parce que ce sont les gravures originales du livre. Des illustrations du livre de Jules Verne, le dirigeable volé qui est inspiré de 2 ans de vacances, Jules Verne, et puis ensuite sur la comète. Karel Zeman semblait peut-être un petit peu trop méconnu en Belgique. Disons que le nom disait quelque chose, sonnait à l'oreille, mais je ne pense pas que beaucoup de gens aient vu les films. Et s'il faut présenter Karel Zeman, je dirais que c'est pas moi qui l'invente, que c'est un petit peu le Méliès tchèque, et que c'est un mélange, c'est quelqu'un qui fait la synthèse entre réel et fantastique, de manière très très habile, qui a inventé énormément de techniques pour faire ça. C'est donc très très proche de Jules Verne, je dirais, dans sa façon de fonctionner aussi, de Méliès, dans sa façon de fonctionner, puisque Méliès également a inventé énormément de techniques pour pouvoir s'exprimer. Et je pense que Zeman a été l'inventeur de beaucoup de techniques qui ont été reprises après dans des films plus hollywoodiens, comme par exemple le mélange de décors d'animation avec des personnages réels, par exemple, ce genre de choses.
Retrouvez l'univers de Karel Zeman ce dimanche dans Culture sans frontières.
Millions de couronnes, c'est le coût d'un projet original de lutte et de prévention contre la toxicomanie. Un train sillonnera la République tchèque à partir de l'année prochaine, présentant des expositions dont le réalisme et la mise en scène évocateur doivent frapper fort les esprits. Anna Kubišta.
L'adolescence rime souvent avec le rejet de tout ce qui vient du monde adulte, et les conseils, en particulier, apparaissent souvent plus comme une leçon de morale que comme quelque chose qui vaut la peine d'être écouté. Comment alors faire passer des messages qui aillent dans le sens d'une prévention contre la drogue sans pour autant se heurter à un mur d'indifférence ou à un rejet par principe ? Revolution Train, le train de la révolution en français, entend changer l'angle d'attaque de la prévention. Pavel Touma de la fondation Český vlak, le train tchèque, a présenté le projet ce lundi.
Jedná se o mobilní vlakovou jednotku, která má 8 vagónů. Ta jednotka bude jezdit po České republice.
Il s'agit d'un train composé de 8 wagons qui va circuler à travers l'ensemble de la République tchèque. On prévoit qu'environ 900 000 enfants viendront le visiter sur une période de 2 ans. Ce qui est révolutionnaire, c'est que nous essayons d'agir sur tous les sens de l'être humain. C'est-à-dire que nous tentons d'influencer le visiteur, non seulement à l'aide de la vue, de l'ouïe et du toucher, mais aussi par l'odorat et le goût.
Les dessins présentés montrent à quoi ressembleront les wagons de ce train inhabituel. Des murs qui s'effritent, une baignoire vide, des débris et des ordures sur le sol, un landau dans un coin, des seringues qui traînent, autant de visions qui doivent sensibiliser de manière directe les jeunes visiteurs. Odeurs, bruits et températures différentes doivent les plonger encore plus dans un monde de destruction et d'hallucination. Des projections, bien encore des concerts, feront partie du programme éducatif. Pourtant, certains émettent des doutes, à la fois sur l'efficacité et sur le bien fondé du projet, comme Tomáš Foritek, directeur du festival de musique antidrogue Modredné, Les Jours Bleus.
J'ai des doutes sur les retombées du projet pour les enfants. Les organisateurs tablent sur un nombre élevé de visiteurs et sur l'intérêt que ce projet va susciter, mais d'après moi, rien ne nous le garantit. Et rien ne dit que les échos seront favorables, sans compter que les enfants peuvent très mal réagir.
Trouver des moyens de communiquer avec les jeunes et surtout être didactique, convaincant, sans être ni répressif ni rébarbatif, c'est la ligne directrice du projet qui, avant même son lancement, fait déjà des émules, puisque l'ancien ministre canadien des Finances et des Sports, Otto Jelinek, a fait part de son enthousiasme et de son souhait de développer un équivalent au Canada.
Je pense que c'est extraordinaire car il s'agit d'un projet intéressant et unique en son genre. Ça aura un côté ludique pour les jeunes. Discuter ou faire des conférences aux jeunes en leur disant qu'il ne faut pas, qu'ils commencent à prendre de la drogue, ça ne marche pas. Par contre, avec quelque chose d'unique comme ce train, je suis sûr que les adolescents vont réagir et j'espère que les résultats seront positifs.
Eh bien, c'est la fin de Fais un événement, présenté par Lindsay Minsky et toute l'équipe de Radio Prague. Bonne écoute de la suite de notre programme.
Miroir de la société. Alena Gebertova.
Et un regard hors du commun sur les turbulences du XXe siècle. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier le livre qui paraît ces jours-ci dans les librairies tchèques et qui offre des récits de deux femmes roms, des septagénaires toutes les deux, sur leur vie et sur celle de leur famille. L'une d'elles, Elina Michalková, s'est confiée à Radio Prague.
Dá se říct od narození mých prarodičů o naší rodině, protože ji považuji za významnou.
Je compte dans ce livre la vie de ma famille depuis la naissance de mes arrière-grands-parents. Je pense qu'elle le mérite bien, car c'est une famille extraordinaire. Je peux dire que dans un certain sens, c'était une famille exceptionnelle, car très adaptée à la société majoritaire. J'espère que j'ai écrit leur histoire, ainsi que la mienne, d'un cœur sincère et plein d'amour. J'ai tenu notamment à dire que l'instruction a toujours joué un grand rôle dans notre famille. La preuve, ma fille aînée et l'une de mes petites filles sont institutrices. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, moi-même, j'ai voulu faire des études universitaires, mais au déplaisir de mon père, j'ai finalement préféré m'occuper de mes enfants. Je peux donc dire que l'éducation a toujours compté pour mes grands-parents, pour leurs enfants et pour moi-même.
Byli dost vzdělaní.
Mamole, mamole, vení večamore. Kamale, 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 kajťano no masamore. Tíken mamo, sveto sme skundrové.
Kundrové.
Samore Roma, odojde naše.
Lena Michalková habite la commune de Nesovice en Moravie. C'est non loin de là, dans un camp près de la ville de Hodonin, qui fut interné pendant la guerre, son grand-père avant d'être déporté vers Mauthausen. À l'époque, Elina avait 14 ans.
My jsme o tom moc nevěděli. My jsme se toto všechno dovídali až po válce.
Nous n'en savions pas grand-chose. Ce n'est qu'après la guerre que nous avons révélé toute la vérité. C'était des choses dont il était interdit de parler. En plus, les gens avaient peur de parler. Notre famille était persécutée. On souffrait de la faim. On n'avait pas le droit de s'éloigner plus de 20 kilomètres de notre village. Le pire, c'était d'être menacé par la déportation vers un camp de la mort. C'était terrible, on avait tout le temps peur. Mais nous avons survécu, grâce surtout au soutien de l'ensemble de la commune et de son maire. Mais force m'est en même temps de constater que parmi les Tchèques, il y avait aussi des traîtres, des Judas. C'est le cas de Karel Hašler, très populaire compositeur de chansons tchèques, qu'il illustre parfaitement. Un jour, lorsqu'il se trouvait dans une auberge dans un village tchèque, il chantait sa version actualisée de l'une de ses chansons très connues. Dénoncé, la Gestapo l'a arrêté le lendemain et envoyé à Mauthausen, d'où il n'est plus revenu.
Покушниц не буде мій, если нам занимешь.
Quelques mois avant la fin de la guerre, Elina Michalková a échappé de justesse à la stérilisation. Elle s'en souvient.
V srpnu roku 44, kdy mě bylo 18 let, jsem dostala zprávu, že mám být...
En août 1944, j'avais 18 ans. J'ai alors appris que la Gestapo de Brno allait m'inviter à subir la stérilisation. Il faut stopper la procréation des tziganes, déclarait-elle. On ne peut pas savoir ce que je ressentais. Je pleurais, j'avais déjà un fiancé, c'était mon futur mari. Je travaillais à l'époque dans une usine à Austerlitz, près de Brno. Son directeur m'a dit « Mais tu ne vas quand même pas te laisser stériliser maintenant, quand les Allemands commencent à perdre et à fuir. Il vaut mieux que tu te caches. » Et c'est ce que j'ai fait. Une tante m'a amené à Olomouc chez sa mère, qui avait plus de 70 ans. C'est dans la cave de sa maison que j'ai passé 6 mois jusqu'à la fin de la guerre. C'est ainsi que je me suis sauvée de la stérilisation. Il va de soi qu'après cette expérience, j'ai voulu avoir beaucoup d'enfants et j'en ai effectivement 4.
Ale tak jsem byla zachráněna před sterilizací a proto jsem chtěla hodně dětí a proto mám 4.
Savoreo Roma de nasher, na chane masovo keres, savoreo ich para mena.
C'était le miroir de la société. Merci d'avoir suivi notre programme d'aujourd'hui.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and